en l'an 1000 très exactement, un copiste qui compte parmi les grands maîtres de la calligraphie arabe, Ali ibn Hilal, plus connu comme Ibn al-Bawwab, c'est-à-dire le fils du concierge, littéralement, achevait la transcription d'une copie du Coran qui est de nos jours conservée à la Chester Beatty Library de Dublin et dont vous voyez un double feuillet sur l'écran. Le manuscrit lui-même ne nous retiendra guère, sauf pour un point, son écriture. Celle-ci est en définitive assez proche, sinon identique, de celle que nous trouvons sur des exemplaires imprimés contemporains. En d'autres termes, un lecteur contemporain n'aurait guère de difficulté à lire cet exemplaire vieux d'un millénaire. À titre de comparaison, et ça, vous le savez sans doute, un manuscrit latin de la même époque donnerait sans doute plus de fil à retordre à celui qui, sans avoir reçu une formation de paléographie latine, tenterait de le déchiffrer. Si le temps semblait être s'arrêté pour l'évolution de l'écriture arabe à une date très haute, les premiers siècles de l'islam ont connu un développement graphique qui retient l'attention parce qu'il concerne presque exclusivement dans le domaine des manuscrits les copies du Coran. Pour l'étudier, les chercheurs disposent par chance d'une abondante documentation dont la préservation mérite d'être analysée plus en détail en guise de première présentation de ce dont je parlerai cette année. La portion la plus considérable a été en effet conservée dans l'équivalent de Geniza, autrement dit des dépôts où ont été entreposés sans soin particulier, mais à l'abri des souillures, des écrits, avant tout des Corans, où pouvait figurer le nom divin et qui, de ce fait, ne pouvait pas être laissé à l'abandon. Nous en connaissons quatre que je vais évoquer selon la chronologie de leur découverte. Dès le XVIIe siècle au moins, des habitants de Fustat, qui est donc encadré en jaune, c'est en fait la ville qui a précédé le Caire. Les Fatimides fondent le Caire, mais avant cela, à quelques kilomètres plus au sud, se trouve la ville de Fustat. Donc les habitants de cette ville avaient commencé à vendre à des amateurs européens d'antiquité ou de curiosité des fragments plus ou moins importants, soit directement, soit en passant par des intermédiaires. C'est ainsi qu'un négociant danois avait acquis dès 1626 cinq volumes qui sont maintenant conservés à Copenhague et qui proviennent très certainement du dépôt de la plus ancienne mosquée d'Égypte fondée en 643, celle de Amr à Fustat. Un peu plus tard, Friedrich von Haven, un membre de l'expédition de Carsten Niebuhr, avait acquis au Caire, en novembre 1761, un feuillet de Coran qui fut reproduit dans le voyage en Arabie. Le manuscrit d'où il fut retiré était conservé à ce moment-là dans la bibliothèque de la mosquée d'Al-Azhar et était attribué au calife Omar, c'est-à-dire le troisième calife, le deuxième calife, mais il provenait vraisemblablement de Fustat. Ces transactions restaient cependant d'une ampleur limitée dans la mesure où elles étaient susceptibles de mettre l'une ou l'autre des parties impliquées dans une situation délicate. Niebuhr rapporte dans son récit que von Haven dut déployer beaucoup d'efforts et payer grassement son maître d'arabe qui, lui, avait accès à la bibliothèque d'Al-Azhar pour obtenir ce feuillet que vous voyez sur l'écran. Quant à Ulrich Zeitzen, un voyageur allemand du début du XIXe siècle, il se plaint également, lors de sa visite de janvier 1809 à la mosquée, de la bigoterie des femmes qui se trouvaient dans la mosquée de Amr et auprès desquelles il tenta en vain, dit-il, d'acheter quelques feuillets. Elles lui objectèrent que les manuscrits étaient waqf, c'est-à-dire en bien de main morte, et lui racontèrent que plusieurs personnes, dont des mamelouks, c'est-à-dire des membres de l'élite militaire de l'Égypte à cette époque, en avaient pris, mais les avaient rapportés parce qu'ils avaient perdu la tranquillité d'esprit à la suite du vol qu'ils avaient commis. La situation avait pourtant changé avec l'expédition d'Égypte. Au cours de cette dernière, ceux qui cherchaient à acquérir des manuscrits, y compris des manuscrits coraniques, purent le faire dans des conditions beaucoup plus favorables que leurs prédécesseurs. Parmi les membres scientifiques de l'expédition figurait un jeune arabisant, Jean-Joseph Marcel, qui avait pour fonction de s'occuper de l'imprimerie dont Bonaparte avait fait embarquer le matériel sur un des navires. Une fois les premiers succès remportés et les Français installés au Caire, Marcel allait mettre à profit à la fois ses connaissances d'arabe et sa position en tant que membre de l'expédition, pour collecter des manuscrits. Dans les souvenirs qu'il a laissés, Il évoque surtout l'épisode du sauvetage d'un Coran de très grande dimension, arraché aux flammes de l'incendie de la mosquée d'Al-Azhar et qui se trouve de nos jours à la Bibliothèque nationale de France. Par d'autres sources, nous savons que son intérêt pour les livres anciens ne s'était pas arrêté là. En tant que membre de l'Institut d'Égypte, il a dû, au sein de sa commission des sciences et des arts, prendre part aux acquisitions des manuscrits qui seront déposés en 1803 à la Bibliothèque nationale, qui s'appelait à l'époque impériale. La Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg abrite même un fonds qui porte son nom et regroupe les fragments achetés par Marcel à Fustat. Comment en fit-il l'acquisition ? Nous ne disposons pas d'informations plus précises à ce sujet qu'une note de sa main dans laquelle il déclare qu'il s'agit de fragments, et je cite, « recueillis dans la mosquée d'Amrou au Vieux Caire, en Égypte ». Fin de la citation. Lorsque, pressée par les Anglo-Ottomans, la garnison française du Caire dut signer la convention du 27 juin 1801, une clause prévit que les Français, notamment les savants, eussent le droit d'emporter leurs possessions avec eux. Vous savez que la seule exception, c'est la pierre de Rosette. Et la collection des feuillets coraniques de Marcel sortit ainsi d'Égypte pour rejoindre la France. De son vivant, Marcel ne se défit pas de cet ensemble. Après sa mort, il fut acquis de son héritière, une dame dénoyée, par le gouvernement russe grâce à l'entremise d'un arabisant russe, Hanikov, qui se chargea de la transaction. Des notes plus récentes sur les papiers de Marcel sont dues à Victor Langlois, qui était un arabisant français de l'époque, qui se chargea de mettre de l'ordre dans les fragments et d'en faire l'inventaire avant qu'il ne regagne la bibliothèque de Saint-Pétersbourg en 1864. Longtemps, Marcel avait caressé le projet de publier une paléographie arabe dans laquelle il aurait tiré parti des fragments coraniques de sa collection, un projet que malheureusement il n'avait pas pu mener à bien. Une idée presque identique se retrouve sous la plume de Jean-Louis Asselin de Cherville qui déclarait dans une lettre de 1814 avoir rassemblé, et je le cite, « une collection considérable de feuilles du Coran en caractère poufique sur peau de gazelle depuis les premiers siècles de l'islamisme, c'est ainsi qu'il s'exprimait, jusqu'à l'époque où ces caractères ont cessé d'être en usage pour former une paléographie arabe. Je possède, ajoutait-il, plusieurs feuilles du plus ancien manuscrit de cette espèce qui soit connu. » Asselin de Cherville avait entamé sous la Révolution des études orientales et avait ainsi suivi les cours d'Antoine Isaac Sylvestre de Sacy. Il avait obtenu du ministère des Affaires étrangères un poste de droguement au Caire qu'il rejoignit en 1806, soit 2 ans avant que ne fût publié le fameux mémoire sur l'origine et les anciens monuments de la littérature parmi les Arabes de Sylvestre de Sacy. Mais du moins, certaines des conclusions de son maître dans ce mémoire, à propos des écritures anciennes, et plus spécialement à propos du passage d'un texte qui donne une clé pour comprendre les écritures anciennes, pouvaient déjà avoir été connues d'Asselin de Cherville. Il n'est pas non plus exclu qu'il ait pu examiner à Paris, avant de partir, la collection de Marcel qui se trouvait déjà là. Ces informations l'ont-elles guidé dans l'acquisition des fragments qui sont de nos jours à la Bibliothèque nationale de France ? En tous les cas, comme pour Marcel, l'espoir qu'il nourrissait de voir son activité scientifique reconnue et de produire une paléographie arabe ne se réalisa pas et il mourut au Caire en 1822. La collection de manuscrits d'Asselin de Cherville arriva à Marseille en 1825 et ses héritiers cherchèrent à la vendre. Après avoir pensé d'abord trouver un acquéreur en Grande-Bretagne, ils se mirent d'accord avec la Bibliothèque royale et une note, dont l'auteur pourrait bien être Toussaint Reynaud, conservateur des manuscrits orientaux, évaluait l'intérêt de cette collection, peut-être avant même que la vente n'ait été conclue. Elle ne manquait pas d'attirer l'attention du destinataire, qui était sans doute le directeur de la bibliothèque, le trône, sur les fragments en caractère koufique qui offraient de nouveaux moyens d'étude aux amateurs de paléographie arabe. Et vous voyez que la paléographie arabe est alors au centre des préoccupations. L'acquisition fut conclue en 1833 et eut probablement pour conséquence indirecte la vente à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg de la collection de Marcel dans la mesure où la Bibliothèque nationale pouvait estimer qu'elle en disposait suffisamment. Les bibliothèques de Paris et Saint-Pétersbourg n'étaient toutefois ni les seules ni les premières en Europe à conserver des feuillets provenant de Fustat. Le voyageur allemand que je mentionnais précédemment, Zeitzen, avait en effet acheté en 1808, pour le compte de la collection de Gotha, un petit nombre de fragments qui y parvint dès 1810 et fut objet d'une publication en deux étapes. L'histoire du fonds de Fustat est en effet caractérisée par sa dispersion progressive qui se poursuivit tout au long du XIXe siècle et même au-delà. La décision fut bien prise par les autorités égyptiennes de transférer à la bibliothèque khédiviale vers les années 1820 ce qui restait du fonds à la mosquée de Hamr, mais il semble bien que les antiquaires avaient déjà pris les devants. Comment expliquer l'acquisition par un égyptologue britannique d'un manuscrit qui fait aujourd'hui la partie des collections de la British Library ou encore des collections plus petites comme celle de Chicago ou du Vatican? Pour ne pas parler de la vente aux enchères à Rennes en 2011 d'un important lot de feuillets qui était en la possession d'un antiquaire d'origine grecque qui avait de bons contacts en Égypte. Les ventes ont souvent porté sur un seul feuillet, ce qui accroît la difficulté du remembrement dans la mesure où il faut aller chercher dans plusieurs collections des feuillets qui initialement étaient ensemble. Des différents dépôts de mosquées que j'évoquerai aujourd'hui, celui de Fustat est le mieux connu en ce qui concerne ses contenus. Les fragments acquis par Aslan Cherville ont en effet été étudiés dès le XIXe siècle par un précurseur, Michele Amari, dont les notices, bien que succinctes, ont été intégrées au catalogue de Slan, qui a été publié à la fin du XIXe siècle. D'autres parties de la collection, telles les fragments de Gotha, de Chicago ou du Vatican, ont également été décrits, des spécimens des premiers ayant même été reproduits sous forme de fac-similé dès 1844 par Johann Müller. D'autres sont moins bien connus, mais accessibles. La grande inconnue est constituée par le fonds de Dar al-Kutub au Caire, héritière de la bibliothèque khédiviale, où devraient se trouver les feuillets de la mosquée de Fustat qui y ont été transférés au XIXe siècle. La plupart des savants, y compris Youssouf Eché, étaient convaincus qu'il ne restait rien de l'ancienne collection de la mosquée de Damas, qui va être maintenant le sujet de ma présentation. Dans son histoire des bibliothèques au Proche-Orient à l'époque médiévale, Eché arriva à la conclusion que les tout premiers livres présents dans la Grande Mosquée avaient été complètement détruits par un incendie en 1068, c'est-à-dire 68 ans après que Ibn al-Bawwab ait terminé son Coran. Il s'avère toutefois qu'une grande partie de la collection a été conservée et là encore, nous trouvons une Geniza similaire à celle de Fustat. L'histoire de sa découverte par les voyageurs occidentaux et les orientalistes n'est pas complètement claire. L'achat de la deuxième collection de Gottfried Wettstein en 1862 par la Bibliothèque royale de Berlin est la première information claire reçue en Europe sur ce gisement, puisqu'on peut parler de véritable gisement. Cependant, les acquisitions par les Occidentaux ont peut-être commencé avant même cette date. Wettstein était consul de Prusse à Damas entre 1848 et 1862, mais un volume factice qui se trouve de nos jours à la Bibliothèque nationale de France faisait probablement partie des feuillets de Damas avant de passer entre les mains de Charles Schaeffer, un érudit et diplomate français qui travailla pour les affaires étrangères entre 1843 et 1857, dans une position donc qui était similaire à celle de Wettstein. Et les feuillets dont je parle, dont il fut le possesseur, ont très certainement été pris à Damas. À quelle date les a-t-il achetés? On sait qu'il a été en poste à Beyrouth et à Jérusalem au début de sa carrière entre 1843 et 1846. Ça veut dire qu'il aurait très bien pu profiter d'un voyage à Damas pour acheter ses feuillets, à moins qu'il ne les ait acquis à Constantinople où il a été en poste après 1849. En tous les cas, les savants ont vite su que Wettstein avait acheté des fragments, puisque la collection de Berlin est mentionnée dès 1860 dans un ouvrage qui a fait date dans les histoires coraniques, la Geschichte des Korans, publié par Theodor Nöldecke. Après cette date, les voyageurs à Damas, à la recherche de manuscrits, devaient savoir qu'il était possible d'acquérir de vieux fragments coraniques. Après tout, la même situation s'était produite au Caire. Après la visite de Marcel à la mosquée de Hamr, la dispersion des fragments de Fustat a été intense. Et de fait, peu après le départ de Wittgenstein de Damas, deux Anglais, Edward Tyrwhitt Drake et Edward Henry Palmer, qui devint plus tard professeur d'anglais à Cambridge, entreprirent un voyage au Proche-Orient avec le Fonds d'exploration de la Palestine, qui était une organisation qui visait davantage à reconnaître dans le Proche-Orient les lieux qui étaient mentionnés dans la Bible, mais qui s'intéressait également à d'autres questions, comme vous le voyez. Venus de Petra et de Jérusalem, les deux hommes s'arrêtèrent à Damas en 1868, avant de rentrer en Grande-Bretagne en passant par Constantinople. Ils ont, semble-t-il, bénéficié de l'hospitalité de quelqu'un qui est relativement célèbre, le consul britannique de l'époque, le capitaine Richard Burton, qui a pu les aider à se repérer dans la ville et peut-être les a mis en contact avec des vendeurs de feuillets. Bien qu'il n'y ait aucune indication claire sur la provenance de chacune des pièces qui font maintenant partie de la collection de la bibliothèque de Cambridge, les preuves que j'ai recueillies indiquent de manière très consistante une origine damascène, à l'exception d'un fragment dont il est spécifié qu'il a été acquis à Jérusalem par les deux hommes. En 1874, leur collection a été achetée par Cambridge. Les manuscrits et papiers usés étaient conservés non pas dans une salle sur le côté de la cour de la Grande Mosquée, mais dans cet édicule qui se trouve dans la cour même, ce qu'on appelle le Bayt al-Mal. Ce détail n'a pas été connu en Occident avant les années 1870. Une première indication de son rôle figure dans le plan dressé par l'architecte français Jules Bourgoin, qui a visité Damas en 1874 ou 1875. Sur son dessin, à côté du Bayt al-Mal, je l'ai cerclé de rouge, nous pouvons voir une légende « bibliothèque », une désignation qui coïncide avec l'appellation locale que l'on trouvait à l'époque pour ce bâtiment, « Rizana ». En 1898, l'empereur Guillaume II visita Damas lors d'une visite d'État. Cela constitua une occasion extraordinaire pour deux chercheurs allemands d'accéder officiellement, cette fois, au dépôt du Bayt al-Mal. Bruno Violette, qui a passé le plus de temps sur place, a écrit dans un article où il parlait de sa trouvaille, pour lui la plus importante, une traduction arabe des psaumes écrite en caractère grec, comment il a pu travailler pendant un mois entier, se dépêchant de voir le plus grand nombre possible de fragments. Selon ses propos, il y avait alors beaucoup de rumeurs qui couraient sur la collection et on laissait entrer les visiteurs sous couvert du secret, ce qui indique cependant que l'accès était possible. Dans l'édicule, les fragments étaient entassés jusqu'à la taille d'un homme et Violette a vu une majorité de fragments arabes, comme on pouvait s'y attendre, mais il mentionne aussi le grec, le syriaque, le samaritain et même le vieux français et le copte. Pendant un moment, il fut aidé dans sa tâche par un collègue allemand, Bernard Moritz. Comme ce dernier était à l'époque directeur de la bibliothèque quédiviale du Caire, il peut être responsable de la présence dans cette bibliothèque d'un juz du Coran avec une reliure qui fut publiée par la suite et qui contient une waqfiya curieuse puisqu'elle est en faveur de la grande mosquée de Damas, qui est étrange pour un manuscrit qui se trouverait au Caire. Mais il faut souligner que les manuscrits ont circulé avant même cette période. Dans la mosquée de Hamr, à Fustat, on a bien un volume qui était à Tars, sur la côte sud de la Turquie moderne, et un autre qui est venu de Tyr. On a des cas similaires à Damas, et donc les déplacements ont pu être nombreux avant la période moderne. En tout cas, le témoignage de Violette est important, car il démontre que quelques années après la destruction de la mosquée des Omeyyades par un incendie en 1893, je vous rappelle que les bâtiments que nous avons vus tout à l'heure qui ont été restaurés, mais à la fin du XIXe siècle, donc en 1893, un incendie les avait détruits. Ça avait permis la découverte des fameuses mosaïques, mais il avait fallu, après cela, tout restaurer. Donc, l'incendie a touché la périphérie, mais les manuscrits sont restés intacts dans le Bayt al-Mal. Un scénario de dispersion des contenus, similaire à celui de Fustat, avait débuté donc vers la fin du XIXe siècle, puisque nous avons vu qu'à Cambridge, à Paris, étaient arrivés des fragments de ce dépôt. Quelques feuillets se trouvent également à Dublin, dans la Chester Beatty Library que je mentionnais au début, avec un acte en faveur de la mosquée. Et ce fragment est associé aux agissements, on peut dire ainsi, d'un collectionneur qui est célèbre, ou peut-être infâme, de la fin du 19e ou début du 20e, Frédéric Robert Martin, un Suédois. Ce diplomate avait fait un voyage en Égypte, au Proche-Orient, en Anatolie, en 1895 et 96, avant de rejoindre l'ambassade de Suède à Constantinople en 1904, où il servit de droguement jusqu'en 1908. Il collectionnait des manuscrits pendant cette période et semble avoir été assez peu regardant sur la façon d'agrandir sa collection. Il s'intéressait avant tout aux arts du livre, donc les peintures étaient en tête de sa liste, et il était, semble-t-il, muni d'un rasoir quand il voulait obtenir une peinture spécifique qu'il n'hésitait pas à découper dans les manuscrits, ce qui fait que certaines bibliothèques d'Istanbul l'avaient déclaré persona non grata et il ne pouvait plus y entrer. Donc, il a sans doute acquis il a très certainement acquis ce feuillet de Damas, mais ce que nous ne savons pas, c'est où. Est-ce qu'il l'a fait à Damas au cours de ce voyage qu'il avait fait en 1895-96 ? Est-ce qu'il l'a acheté à Constantinople, où on sait qu'il y avait déjà des fragments ? C'est un point qui reste obscur. Il est possible que les antiquaires locaux aient commencé à vendre du matériel à une date ancienne. On a, pour renforcer l'hypothèse que je formulais à propos de Martin, le cas de cet autre diplomate, un Allemand, Julius Leutweit Hardegg, qui a été vice-consul à Haïfa, puis consul à Damas pendant la Première Guerre mondiale. Après sa mort, un volume avait été vendu par sa femme, qu'on voit également sur la photo, à la bibliothèque de Berlin, la Staatsbibliothek. Et comme il y a une note qui commémore le don de ce manuscrit à la Grande Mosquée, on sait qu'il vient de Damas. Est-ce que c'est une acquisition directe depuis le dépôt du Bayt al-Mal ? Parce que vous verrez qu'il restait encore des manuscrits pendant la Première Guerre mondiale, ou du moins pendant une partie de la Première Guerre mondiale à Damas. Est-ce que c'était parti d'un groupe de fragments qui en avait retiré, qui était vendu au coup par coup par des antiquaires ? Nous n'en savons rien. Ce que je sais, c'est par un informateur local, qu'un arabisant célèbre, Jean Sauvaget, avait pu acheter des fragments coraniques anciens à Damas dans les années 1940, signe qu'il y avait sans doute des stocks de feuillets qui étaient disponibles à la vente, et des feuillets d'un célèbre Coran de cette collection qui se trouve maintenant dans une collection saoudienne ont pu également sortir de là. Les différents fragments que j'ai mentionnés jusqu'à présent ne représentent toutefois qu'une infime partie de ce qui a été conservé du dépôt de Damas. La majorité d'entre eux se trouvent en effet aujourd'hui conservés à Istanbul. Comment tout cela est-il arrivé dans cette ville ? On a longtemps dit que le transfert de Damas à Istanbul était une conséquence de l'incendie de 1893, mais nous savons maintenant que ça n'est pas possible. Violette a vu les manuscrits en 1898. Certaines sources turques disaient que la collection était arrivée à Istanbul en 1911 et qu'elle avait été d'abord remise à la bibliothèque du musée de Topkapı avant d'être transférée au musée des Efkaf, c'est-à-dire des biens des fondations pieuses, qui a plus tard été rebaptisé le musée des arts turcs et islamiques, dont vous voyez ici le siège moderne, mais qui se trouvait à côté de la bibliothèque de la mosquée Süleymaniye auparavant. Cependant, trois documents qui ont été retrouvés récemment dans les archives du Başbakanlık indiquent que la collection a été retirée de Damas pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont datés de janvier et février 1917 et montrent que la plus haute autorité religieuse ottomane, le cheikh l'islam Moussa Kazim Efendi, a supervisé l'opération qui a été menée à bien avec l'aide de la 4e armée ottomane sous le commandement de Cemal Pasha. Une fois les fragments, donc il s'agit d'une opération qui a été menée de manière tout à fait officielle. Une fois les fragments arrivés à Istanbul, il semble que le musée de Topkapı Saray a fait une sorte d'écrémage en recueillant les plus beaux exemplaires. mais nous n'avons pas de volume d'inventaire qui nous permette de les retracer. C'est seulement en voyant les manuscrits et en les comparant avec ceux qui sont au musée des arts turcs et islamiques que j'ai pu reconnaître, par exemple, dans la série qui s'appelle Emanet Hazinesi, des volumes qui, de toute évidence, étaient autrefois à Damas, et notamment les autres morceaux du feuillet qui se trouve à Dublin et que Martin avait acquis dans des conditions qui restent mystérieuses. C'est au musée des arts turcs et islamiques que sont conservés la plupart des feuillets, et nous parlons d'une quantité impressionnante puisqu'il y en a plus de 200 000. C'est clairement une Geniza, puisque, comme le disait déjà Violette, il y a de tout, de l'arabe, du latin, du français, du syriaque. Il y a surtout des Corans, mais aussi des documents, des amulettes, des certificats, etc., etc. Tout ce qui était écrit, en fait, était mis dans ce dépôt de manière à éviter toute souillure. Les manuscrits coraniques sont de loin les plus nombreux, ils représentent 95 voire 97% de la collection. Mais et il y avait probablement, à l'époque médiévale, une série de dépôts dans la salle de prière où ces manuscrits étaient stockés dans des coffres, d'après les textes que nous possédons, qui permettaient aux fidèles donc d'avoir accès. Donc il ne s'agissait pas à l'origine forcément d'une bibliothèque au sens où on l'entendrait de nos jours, c'est-à-dire un lieu clos où les livres sont fermés, mais plutôt de manuscrits qui étaient répartis en plusieurs points de la grande salle de prière de la grande mosquée. La collection est demeurée plus ou moins dans l'état où elle était au début du XIXe siècle, quand elle a été transportée de Damas à Istanbul. Les fragments n'ont pas été véritablement triés. Au plus, a-t-on attribué les premiers numéros de l'inventaire aux pièces qui étaient susceptibles d'être exposées facilement dans les vitrines du musée. Mais les exemplaires n'ont pas été reconstitués, ce qui fait que l'étude est très complexe, puisque vous avez un feuillet avec le numéro 3, le suivant est à 1227, le quatrième à 6422, donc il faut procéder à une espèce de remembrement virtuel. Et encore que jusqu'au numéro 12000, les choses sont relativement aisées, puisque à un numéro correspond un ensemble, ça va du feuillet au manuscrit entier, qui ont une unité codicologique et paléographique. Mais à partir de 1200, les gens en charge de l'inventaire ont jeté l'éponge et lassés d'attribuer un numéro à chaque feuillet, ils ont fait des paquets de 100 ou 200 feuillets, donc ça se présente comme ça, vous ouvrez un paquet et vous avez un lot de feuillets qu'il faut après reclasser et retrouver les numéros. Donc le travail est assez difficile dans la mesure où, à l'intérieur d'un paquet, comme ils ne sont pas numérotés, c'est finalement les propres notes que vous prenez qui vous permettent de vous y repérer. Parmi les dépôts dont je parle aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez compris, le plus important. Et c'est pourtant sans doute le plus mal connu. Certes, la collection qui avait été vendue par Wettstein, d'une part à Berlin et par la suite à Tübingen, ont été cataloguées dès le XIXe siècle, mais de manière assez sommaire. À Cambridge, les choses se sont passées à peu près de la même façon. Et ça n'est que grâce à Internet et à la numérisation des fonds de ces bibliothèques que nous pouvons nous rendre compte facilement aujourd'hui de ce qu'ils contiennent. En ce qui concerne le matériel transporté de Damas à Istanbul, seul celui qui a été déposé à la bibliothèque du musée de Topkapı Saray a fait l'objet d'une description. Très succincte, il est vrai. En revanche, tout ce qui se trouve au musée des arts turcs et islamiques attend une présentation scientifique, à l'exception, bien sûr, de quelques numéros qui ont déjà été remembrés. Mais vous voyez, c'est un travail de longue haleine. Une troisième collection, similaire aux deux précédentes par son statut, celui d'un dépôt de manuscrits au rebut, fut découverte à l'extrême fin du XIXe siècle à Kairouan. On ne sait pas à quelle date une bibliothèque a été installée dans la mosquée elle-même. Les manuscrits qui faisaient partie de ce dépôt ne m'ont donné absolument aucune information à ce sujet. Des savants locaux ou des voyageurs musulmans connaissaient toutefois depuis très longtemps son existence. Ainsi, dans les dernières années du XIIIe siècle, un voyageur, Al-Abdari, a vu lors de son séjour à Kairouan les pièces remarquables. Je le cite, « Nous sommes entrés dans la mosquée et avons visité la bibliothèque. on a sorti pour nous de nombreux Corans en écriture orientale, y compris certains complètement écrits avec de l'or. Sur certains d'entre eux, il était écrit qu'ils étaient des waqf très anciens qui remontaient à l'époque de Sahnoun et même avant lui. Parmi ces œuvres était également le Muwatta d'Ibn al-Qasim, c'est-à-dire la version d'Ibn al-Qasim du Muwatta de Malik ibn Anas, et d'autres. Je continue. « J'ai vu une copie complète du Coran réunie entre deux planches de bois reliées, sans aucun signe d'usure, dans une écriture orientale admirablement équilibrée, longue de 2 empans et large d'un et demi, et on nous a dit qu'elle avait été envoyée au Maghreb par Osman. » Et ça, c'est pour une première fois, nous rencontrons ce thème que nous allons retrouver par la suite. Mais bien sûr, la splendeur de Kairouan, qui correspond à peu près à l'âge au cours duquel ont été produits les manuscrits qui y sont conservés, s'est arrêtée avec l'invasion des Banu Hilal au XIe siècle. Le déclin de la ville et l'importance croissante de Tunis dans le domaine des études traditionnelles ont pratiquement mis en sommeil la bibliothèque, alors que celle de la Zaytouna à Tunis se développait, comme nous le confirment les sources arabes. L'importance historique de la bibliothèque ne fut donc proprement découverte par les chercheurs qu'à la fin du XIXe siècle. En 1882, peu de temps après que la France eut imposé son protectorat à la Tunisie, une mission scientifique française composée des arabisans Octave Oudas et René Passet avait cherché à établir, entre autres, l'état des bibliothèques tunisiennes. Elle était venue à Kairouan, mais avait trouvé bien peu de choses. Je cite « C'est ainsi que nos recherches dans les principales mosquées n'ont abouti qu'à la découverte de quelques feuillets dépareillés d'ouvrages de droit et quelques copies du Coran servant à la prière. » Les auteurs ajoutaient, et je les cite, « Nous soupçonnons cependant qu'à l'approche de l'armée française, les fonctionnaires ecclésiastiques musulmans se hâtèrent de faire disparaître les livres qui avaient pu échapper aux dévastations antérieures et d'en enrichir leur bibliothèque particulière. » Fin de la citation. Il ne semble pas exclu que les manuscrits aient été dissimulés par crainte d'une confiscation par les Français, mais, comme nous le verrons, l'allégation de vol n'était pas justifiée, sauf une ou deux exceptions. En revanche, la publication par Oudas de quelques feuillets caractéristiques des textes légaux de Kairouan du IXe siècle dans son article sur l'écriture maghrébine représente une première information sur ce fond, même si la première publication est venue d'ailleurs. En 1897, en effet, le voyageur égyptien Mohamed Bayram Bey, au cours d'une visite en Tunisie, vit à Kairouan les fragments de la bibliothèque médiévale, donc elle était bien restée en place où elle avait été remise en place. Leur mauvais état le poussa à en faire état dans un journal du Caire, le Muqtataf, et à demander au gouvernement tunisien de prendre des mesures de conservation. Je le cite, « Dans cette pièce, il y a 2 grands placards pleins de paquets de papier faits pour la majorité des pages détachées, mélangées les unes avec les autres sans aucune attention. » Elles sont tenues ensemble avec des cordes ou des ficelles épaisses, et cette collection est couverte de poussière et de toiles d'araignée. Cette description ne permet pas de savoir si les fragments étaient retournés dans un local attenant à la salle de prière ou conservés dans une autre partie du bâtiment. Dans le plan de la Grande Mosquée, publié avec son étude de cette dernière en 1899, Henri Saladin indique que la petite pièce qu'il nomme J, située derrière la Maksoura et à droite du Mihrab, et la bibliothèque. L'auteur commente un peu plus loin, je le cite, « Dans J, il y a des armoires qui contiennent encore de beaux manuscrits. » Donc il est un petit peu plus optimiste que son collègue égyptien. Mais la pièce, elle, opposée à J, serait l'endroit où les fragments étaient conservés. En L, ajoute Saladin, et je le cite, « il y a des fragments de couverture en bois et des boîtes contenant des fragments de reliures et des restes de manuscrits. » Dans leur livre consacré à l'étude des reliures de Kairouan, Georges Marsais et Louis Poinceau sont d'avis que les reliures découvertes dans une pièce de la cour et à l'est du minaret ont été transférées à cet endroit parce qu'elles hébergeaient des parasites qui auraient pu endommager les livres qui subsistaient. Elles avaient d'abord été stockées vraisemblablement dans les armoires ou les caisses qu'indique Saladin dans la salle L. Elles avaient été donc déjà mises à part du reste des manuscrits avant d'être encore davantage éloignée pour protéger les manuscrits. En tout état de cause, après la publication de l'article de Mohammad Bayram Bey, la collection fut traitée et un premier inventaire manuscrit fut achevé en 1901. Un inventaire plus récent est l'œuvre de An-Nayyal et Jarad. Le premier auteur a également publié un petit livre qui est très utile sur la bibliothèque et son histoire. Mais pour des nécessités muséographiques, quelques pièces furent transférées au musée du Bardo pour être restaurées et exposées. Puis, dans les années 60, on décida de tout rapporter à Tunis en ne laissant à Kairouan que quelques feuillets. Cette solution présenta visiblement des problèmes puisque, en 1983, la collection était renvoyée à Raqqada, près de Kairouan, à l'exception des feuillets qui sont au musée du Bardo, et un travail de restauration commença en 1985-86 avec l'aide de l'Allemagne. La situation de Kairouan est paradoxale. Alors que cette collection comprend des copies du Coran qui ont atteint une grande notoriété, je pense au Coran bleu qui est très très connu, dont on a vu des feuillets à droite et à gauche dans des expositions, et alors que la restauration aurait permis de remembrer la plupart des manuscrits, on n'a pas encore de catalogue de cet ensemble. Pourtant, il s'agit d'une nécessité pour parer au risque de vol. Le mal est déjà fait puisqu'un certain nombre de feuillets ont été dispersés, soit lors de ventes aux enchères, soit par des antiquaires, sans qu'on puisse s'assurer de la légitimité de ces opérations qui ont, vous pouvez le deviner, des effets négatifs pour notre connaissance de la collection. Pour terminer cette exploration de la situation très particulière de ces collections, qui ont permis finalement de sauvegarder les plus anciens manuscrits du Coran, j'évoquerai la découverte de Sana'a. Au début des années 70, alors que le Yémen sortait à peine, en 1970, d'une longue guerre civile qui avait prolongé l'isolement où se trouvait la partie septentrionale du pays sous la monarchie qui était restée en place jusqu'en 1962, les premières entreprises de préservation du patrimoine culturel se mettaient en place. Dans ce cadre, une mission italienne avait été chargée de dresser un bilan de l'état de la grande mosquée de Sana'a, un édifice dont l'histoire, comme vous le savez, remonte au tout début de l'islam. Alors que les travaux étaient en cours, on découvrit entre le toit et le plafond de la salle de prière un ensemble de vieux parchemins et papiers. L'architecte Paolo Costa, que vous voyez sur la photo, a été immortalisé précisément au moment de la découverte. Enfin, vous devinez que ceci est une mise en scène, mais enfin, ça vous donne une idée de la façon dont les choses étaient conservées. La question qui se posait était celle de la conservation de l'ensemble. Le Yémen disposait alors, en la personne du Qadi al-Aqwa, d'un responsable des antiquités qui disposait d'une réelle vision de ce qui devait être entrepris. Les manuscrits furent donc recueillis soigneusement, et même si un très petit nombre d'entre eux fut peut-être séparé du reste à ce moment, il y a des fragments qui sont passés en vente publique dont je soupçonne qu'ils sont d'origine yéménite, l'essentiel attendit que soit trouvé un pays acceptant de prendre en charge financièrement et techniquement la préservation de l'ensemble. Ce fut finalement une équipe allemande à qui fut confiée cette tâche. L'histoire ancienne de la collection reste mal connue. Il existe en effet peu de documents qui accompagnaient les manuscrits et qui permettent donc de déterminer leur origine. Un des très rares actes de Waqf préservés permet d'établir un lien avec Sana'a, mais il n'est pas sûr que cette observation puisse être étendue à tous les manuscrits. De fait, l'une des découvertes les plus spectaculaires, des feuillets d'une copie in folio avec deux enluminures exceptionnelles qui représentent deux bâtiments généralement interprétés comme des mosquées, a été attribuée à la Syrie par l'éditeur des décors Hans Gaspar von Bodmer. Si on admet cette origine, une hypothèse qui repose sur des arguments assez convaincants, somme toute, il reste à savoir si le manuscrit a été envoyé au Yémen vers le moment où il a été réalisé, c'est-à-dire au tout début du 8e siècle, selon l'hypothèse de von Bodmer, ou s'il y est arrivé à une date postérieure, une problématique qui se retrouve d'ailleurs pour les trois autres collections que j'ai évoquées. La même remarque que celle que je faisais à propos de Kairouan peut être répétée ici. Alors que les fragments ont été restaurés et remembrés, il n'existe pas encore de catalogue de cette collection. Pourtant, deux manuscrits, donc celui que j'ai montré et le fameux palimpseste, ont atteint une très grande notoriété. La situation est d'autant plus préoccupante que les circonstances actuelles laissent craindre que la collection souffre du conflit en cours. De plus, on sait qu'un deuxième ensemble de fragments a été découvert peu avant le début du conflit, mais que cette découverte n'a pas pu être exploitée et que les manuscrits attendent des jours meilleurs à tous les points de vue. En guise de post-scriptum à ce survol de ces guénisas musulmanes, je signalerai le cas de la collection de l'Astani Quds de Mashhad en Iran, dont on ne sait pas trop s'il doit être ou non inclus dans le petit groupe que je viens d'évoquer. Il existe en effet, dans le sanctuaire, un groupe de manuscrits dont les plus anciens remontent sans doute à la première moitié du 8e siècle, c'est-à-dire à une situation similaire à celle de Kairouan. À Damas et à Foustat, on a des témoins plus anciens. La question des conditions de leur préservation est posée. Cette institution conserve, en effet, d'autre part, un certain nombre de copies attribuées à des figures de premier plan du chiisme, en d'autres termes, Ali et sa descendance. Ces copies datent, elles, dans l'ensemble du IXe siècle, un matériel très bien représenté dans les autres dépôts. La question est de savoir si les uns et les autres, qui apparaissent aujourd'hui mélangés dans le catalogue, ont traversé ensemble les siècles, ou si les manuscrits dépourvus de pédigré étaient conservés dans les mêmes conditions qu'à Foustat, Damas et Kairouan, et que ça n'est que récemment qu'on a tout mélangé. Malheureusement, nous n'avons pas d'éléments pour répondre à cette question. Et c'est vrai que les frontières étaient sans doute assez poreuses, dans tous les cas, entre un feuillet ou un manuscrit pouvant être retiré et transformé en relique, et les manuscrits, disons, ordinaires. Dans la majorité des cas, comme je le disais, les reliques sont toutefois légèrement plus tardives que les manuscrits du reste du fond de Mashhad. Au sein de l'énorme production manuscrite musulmane, les manuscrits anciens du Coran, copiés entre les 7e et 10e, voire début du 11e siècle, représentent une exception. Outre qu'ils sont majoritairement copiés sur du parchemin et très souvent dans un format particulier, oblong, leurs conditions de survie ont été tout à fait à part. En effet, les guénisas dont j'ai parlé si longuement représentent une forme de préservation des manuscrits qui n'a pas d'équivalent pour des manuscrits, disons, plus ordinaires. Même si dans ces ensembles, on a parfois des copies de textes non coraniques, notamment à Damas, voire même dans d'autres langues, toujours à Damas, ces exceptions sont une minorité infime. Les copies sur papier du Coran, postérieures au XIe siècle, ont certainement aussi été retirées de la circulation lorsque leur état ne permettait plus de les utiliser normalement. Mais des indications recueillies ça et là nous laissent penser qu'elles étaient utilisées d'une autre façon, c'est-à-dire qu'au lieu de les mettre dans des dépôts, on les recyclait. En effet, nous avons des décisions juridiques qui indique qu'il était licite de transformer les feuillets de papier de ces manuscrits sur papier, donc des femmes qui étaient en très mauvais état, de les transformer en carton pour servir de reliure, soit à des Corans, soit à des ouvrages de hadith, chose que nous n'avons pas pour le parchemin. La majorité des manuscrits coraniques plus récents qui nous sont parvenus, quand ils sont entiers, sont eux généralement des ouvrages de bibliothèque. C'est-à-dire que là, nous avons des livres qui sont restés accessibles et utilisés jusqu'à une date assez récente, et c'est compréhensible dans la mesure où le premier exemple que je vous ai montré, le Coran d'Ibn al-Wahhab, montre qu'un manuscrit du début du XIe siècle, pouvait être utilisé un millénaire plus tard, s'il était toujours en bon état. Il n'en va pas de même pour les Corans anciens qui sont dans des écritures extrêmement spéciales. Notons qu'il existe dans la distribution chronologique du matériel, si maintenant nous prenons l'ensemble de la production, à la lumière bien sûr de ce que nous savons actuellement, ce qui n'est pas encore tout à fait une science complète, une sorte d'incohérence. Les manuscrits coraniques des XIe et XIIe siècles sur papier sont comparativement peu nombreux par rapport aux centaines de copies sur parchemin qui ont été conservées. C'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, les manuscrits, la disons, la distribution chronologique des manuscrits à la forme d'une pyramide inversée, c'est-à-dire que nous avons moins de manuscrits anciens et beaucoup de manuscrits récents. Donc théoriquement, au fur et à mesure que les siècles passent, nous avons chaque fois plus d'exemplaires. Or là, au XIe, XIIe siècle, il y a une espèce de creux dans les manuscrits du Coran sur papier, comme si ils avaient disparu ou n'avaient jamais été produits ou Dieu sait quoi. Mais il y a en tous les cas là une sorte d'énigme à laquelle il faudra bien sûr essayer d'apporter une réponse. La question qui se pose ensuite, c'est celle de la mise en place de ces quatre structures dont j'ai parlé, ou cinq si on inclut le cas de Machad. Et là aussi, nous n'avons que très peu de données. Le cas le plus clair est celui de Kairouan. Pourquoi ? Nous avons un inventaire qui a été établi en 1294 par un groupe de gens qui sont passés voir quels étaient les manuscrits qui étaient présents dans la grande mosquée. Et là, donc, on peut faire la liste et la confronter avec l'état actuel de la collection pour se rendre compte qu'il s'agissait bien de Corans qui étaient, dès cette époque, à Kairouan. Et donc, disponible encore à cette date, à la fin du XIIIe siècle, dans la salle de prière de la grande mosquée. Tous n'y étaient peut-être pas, puisqu'il y existe dans cet inventaire une sorte de section finale où il est décrit un bloc de volumes qui ont servi à, disons, restaurer des Corans dans lesquels il manquait des pages. Donc on a pris un feuillet, on l'a mis dans un autre Coran. Mais enfin, disons qu'à part ce groupe de Corans qui était utilisé pour compléter des Corans existants, les autres copies continuaient à avoir une existence en tant que manuscrits. Parmi les fragments de Damas, la seule attestation que j'ai vue d'une utilisation tardive, c'est une note assez émouvante d'un lecteur daté du XIIe siècle qui dit avec un petit accent de fierté « J'ai lu ce Coran, parce qu'il est dans une écriture ancienne, j'ai lu ce Coran en telle année ». On peut donc déduire que ce manuscrit, à cette date, était encore accessible pour un lecteur. En ce qui concerne Fustat et Sana, la situation est parfaitement obscure, mais bien sûr, des témoignages par la suite pourront nous informer de ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, si nous prenons le cas de Damas et le cas de Fustat, la création de ces dépôts serait finalement légèrement postérieure à ce que je pensais jusqu'à présent, c'est-à-dire que vers le XIe siècle, ils étaient déjà en place, ce serait en fait plutôt au XIIIe siècle que ces dépôts de vieux Corans auraient été mis en place pour recueillir des exemplaires qui ne servaient plus et qui étaient difficiles à lire. À côté de cette source représentée par les dépôts que j'ai évoqués peut-être un peu longuement, nous avons une autre piste de préservation de manuscrits coraniques anciens sur parchemin. Il s'agit des reliques, c'est-à-dire des copies attribuées de manière abusive à des figures de premier plan des débuts de l'islam. Les quatre califes bien guidés, Abou Bakr, Omar, Osman et Ali, les imams chiites, Ali et ses descendants, mais également des personnages de moindre stature, mais qui sont des personnages disons, symboliquement important. J'ai appris récemment qu'il existait ainsi une copie avec une fausse signature de Salman al-Farisi, donc un des compagnons du prophète, qui est le seul persan qui se trouvait en principe à Médine à cette époque. Donc, bien sûr, pour un public iranien, c'est extrêmement émouvant de penser qu'on a une copie de ce personnage qui est le premier iranien musulman, etc. Donc, il y a probablement des... Les sensibilités, disons, locales se sont trouvées flattées par ce genre de manuscrits qui étaient, bien sûr, des forgeries, puisque ce sont toujours des copies plutôt du IXe siècle que du VIIe. Le mode de préservation de ces manuscrits est, bien sûr, complètement différent de celui des dépôts, dans la mesure où là, ce sont des exemplaires qui ont été conservés tels quels dans des bibliothèques ou dans des mosquées bien à l'abri dans un coffre. Il existe naturellement aussi des exceptions à ces deux cas qui couvrent la majorité du matériel dont je m'occupe, mais elles me semblent confirmer la règle. Ces exceptions, ce sont bien sûr les bibliophiles, qui sont à la recherche de curiosités. Et ces écritures anciennes, bien sûr, attiraient leur attention. Et nous avons ainsi un certain nombre d'albums constitués au XVIIe, XVIIIe siècle, dans lesquels on trouve un feuillet de parchemin qui est là pour montrer cette écriture et ce matériau si étrange, puisqu'il faut penser que le parchemin n'était plus en usage depuis très longtemps. Dans l'Europe chrétienne, antérieurement au développement des études orientalistes de manière scientifique, les fragments ou manuscrits à l'ensemble que je décris sont restés rares jusqu'au XVIIe siècle. Cela est tout d'abord la conséquence de la situation même que je viens de parler, puisque les manuscrits anciens avaient été retirés de la circulation et mis dans des dépôts dont l'accès, nous l'avons vu, n'était pas forcément très facile. Les possibilités d'acquisition par les moyens classiques, c'est-à-dire d'aller sur place et d'acheter un manuscrit ou de demander à un intermédiaire de le faire, se trouvaient réduites. À partir du XVIIe, les savants européens signalent parfois dans des ouvrages consacrés à l'islam et aux études arabes des manuscrits koufiques dans des collections européennes, mais c'est une information qui doit toujours être prise avec précaution parce que le mot koufique à l'époque est un petit peu flou et peut recouvrir des réalités très distinctes. Pour en prendre un exemple qui n'est pas tout à fait celui-là, mais dans le catalogue de Topkapı, vous avez des manuscrits maghrébins qui sont décrits comme étant koufiques, ce qui bon, est une hérésie paléographique, mais montre bien que les concepts n'étaient pas forcément très figés. L'entrée dans les collections européennes de manuscrits coraniques est attestée, en tous les cas de manière très claire, à partir du XVIIe. C'est ce négociant danois, Frédéric Bolvold, qui acquiert au Caire en 1627, comme je le disais, un petit groupe de manuscrits qui passe ensuite très vite dans les collections royales. En France, nous avons un Coran célèbre, même si, là encore, c'est sans doute pas à prendre au pied de la lettre, le Coran de Charlemagne, qui était au XVIIIe siècle dans la collection d'un certain Cochu, dont je ne sais pas trop qui il était, mais qui a été acquis par la Bibliothèque royale à la fin du XVIIIe siècle. Alors bien sûr, c'est avant, que s'est-il passé? Nous ne savons pas du tout d'où le manuscrit est venu, en tous les cas certainement pas de Charlemagne, parce que jamais Harun al-Rachid, comme le dit une petite note en français qui accompagne le manuscrit, n'aurait offert à un souverain chrétien un Coran. C'est absolument impensable. Mais bon, c'est effectivement un manuscrit ancien du IXe siècle, donc postérieur à Harun al-Rachid. Comment est-il venu jusque-là? Nous n'en savons rien. Le matériel est rare et, du coup, les erreurs d'interprétation fréquentes. Nous avons à la Bibliothèque nationale ce beau facsimilé d'un des manuscrits de Copenhague, acquis par Bocvold, comme je le disais à l'instant, un facsimilé qui avait été envoyé à l'orientaliste et responsable des manuscrits de la Bibliothèque royale, Étienne Fourmont, pour lui demander de quoi il s'agissait. Et la réponse de Fourmont nous montre bien que Fourmont n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être et croyait que c'était une espèce de jeu graphique. Ce n'est donc que très récemment que ces manuscrits ont commencé à être pris en considération, tant comme témoignage sur la culture des premiers siècles de l'islam, que comme source de premier plan pour notre compréhension de l'histoire du texte coranique au cours de cette époque. Comme vous l'avez pu voir, nous disposons d'une information extrêmement abondante, encore qu'elle soit encore en partie mal classée. Plutôt que de présenter une synthèse qui est prématurée, je me propose cette année de me pencher sur une série de manuscrits individuels qui jalonnent la période que j'ai retenu, qui va donc du 7e au début du 11e siècle, et qui me semble représentatif de la production de l'époque et permettre de comprendre les enjeux de la transmission, qu'elle soit manuscrite ou orale, au cours de cette période, et des exemplaires qui nous permettront de percevoir les enjeux politiques et religieux de l'époque et suivre enfin l'éclosion d'un nouvel art islamique, puisque c'est un nouvel art islamique qui se met en place autour du texte sacré au cours de cette période. Je vous remercie.